Tout de suite, on retrouve Truelle FM, la chronique archéologie dans Café Campus avec Mathéo et Aurélie. Salut à tous les deux.
Salut. Salut.
Dans les studios aussi, il y a plein de monde qui nous a rejoints. Il y a Manon.
Salut.
Il y a Joris.
Et salut.
Et Mélissa.
Salut.
Ça fait plaisir de voir le studio aussi rempli. Aujourd'hui, dans Truelle FM, Aurélie et Mathéo, on parle de quoi ?
Eh ben, de tout ce que vous voulez.
C'est open bar aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, c'est open truelle. On peut vous poser plein de questions. Ça tombe bien, on est des curieux à Radio Campus. Mm-hmm. Moi, j'ai d'abord une première question à vous poser. Bon, elle est un peu personnelle, mais qu'est-ce qui vous a poussé vers l'archéologie ? Est-ce que c'est un rêve d'enfant ? Quand vous étiez petit, vous vouliez dire « Ah, moi, quand je veux être grand, je veux être archéologue ».
Bah, moi, pour le coup, c'est un peu ça. J'ai toujours voulu travailler dans ce qui était du domaine historique. Et en fait, je voulais pas faire un métier où on reste enfermé dans un bureau ou dans une bibliothèque à longueur de temps. Et un jour, j'ai découvert l'archéologie, du coup, qui mêlait à la fois l'histoire, le travail physique, la recherche, etc. Et bah, du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
C'est waouh, c'est cool. Bah, pour moi, en fait, je sais pas, depuis tout petit, j'aimais bien les momies, l'Égypte et tout et tout. Bon, en fait, on nous fait tout un... Comment dire, on nous vend un peu ça. Et en vrai, c'est très, très dur, genre d'études. Donc, bah, j'ai un peu laissé tomber. Mais ouais, c'est revenu très tardivement, à la fin du lycée. J'ai dit, tiens, l'archéologie, ça peut être sympa. Et puis, bah... Je me suis lancée sans vraiment rien connaître, donc c'était cool.
Mélissa.
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup en tête souvent les momies, l'Égypte et le fait d'aller chercher dans la terre, de faire des fouilles, etc. Mais les études d'archéologie, c'est quoi en fait ? Vous faites quoi concrètement dans votre licence ?
Alors, bah, on fait plein de cours chronologiques, donc sur des périodes connues. Et en fait, à chaque fois, on étudie un phénomène avec les restes matériels. Par exemple, en L3, on se focalise sur la protohistoire. Donc c'est une période en deux parties, donc la protohistoire de l'Europe continentale et la protohistoire de la Méditerranée. Et en fait, c'est une période où, comment dire, c'est le premier urbanisme, c'est les premières, comment dire, façons de gouverner. C'est, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de genre Alésia. Bah, ça, en fait, ça fait partie du phénomène de proto-historique, en fait. Donc voilà, en fait, on voit absolument toutes les périodes et on essaye à chaque fois de caractériser ces périodes par un phénomène et par un objet. Voilà.
Donc d'abord, la théorie avant la pratique.
Exactement, c'est ça. Et puis de toute façon, si on peut, enfin, on peut pas tout fouiller non plus. Donc à un moment, il faut choisir.
Et du coup, moi, je suis curieux de savoir quelle est la part qu'il y a à peu près, je ne sais pas si on peut faire un pourcentage hyper précis, mais entre l'histoire, parce que je suppose qu'il y a énormément d'histoires qu'il faut connaître, la part un peu plus peut-être biologique, géographique, entre la partie, comment ça se fait tout ça ?
Bah, du coup, pour la partie histoire, on peut avoir quelques cours d'histoire en L1 et L2, mais sinon, il faut avoir en fait, des connaissances un peu partout. Donc en histoire, en géographie, en biologie, on commence à en avoir un peu en L3, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire après. Mais ouais, en fait, on a des connaissances en histoire, mais plutôt basées sur les sociétés et les traces qu'ils laissent. Donc on ne va pas avoir de grands cours d'histoire sur toutes les guerres, les mouvements, les rois, etc. Mais du coup, ce sera plutôt centré sur comment est-ce que vivaient les gens, quels outils ils employaient, etc.
C'est beaucoup plus abstrait que l'histoire, je dirais, parce que l'histoire, on a souvent des dates avec des événements très particuliers. Souvent, nous, on donne des grands axes avec les siècles ou alors des dates qu'on a par rapport justement aux méthodes d'analyse et tout ça, mais souvent c'est assez abstrait et on tient vraiment que au phénomène. Ouais, donc la part de l'histoire en elle-même, elle est assez réduite, et oui, il faut connaître tout. C'est ça aussi le truc super cool de l'archéologie, c'est qu'on touche vraiment à tout, l'histoire de l'art, la biologie, tout vraiment, donc c'est trop bien.
Et après, ça dépend aussi en quoi tu veux te spécialiser. Si tu veux faire de l'archéo pur et dur, bah, en fonction de tes préférences, tu vas pouvoir spécialiser dans la céramique, dans le fer, etc. Si tu veux faire plus travailler sur des périodes anciennes, peut-être plus en géologie ou en biologie. Après, si tu peux te spécialiser en physique ou en chimie aussi avec l'archéométrie, en fait, en fonction de tes préférences, tu peux te spécialiser dans tout et n'importe quoi.
C'est ça. Si tu préfères les Grecs, t'étudies les Grecs.
Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'on est limité par l'endroit dans lequel on fait ses études ? Là, par exemple, vous parliez du fait que vous étudiez la proto-histoire en Europe et sur le bassin méditerranéen. Est-ce que du coup, ça peut bloquer si, par exemple, je sais pas, on est passionné par les peuples orientaux, par la Chine, par les traces des Amérindiens ? Est-ce que ça peut bloquer le fait qu'on soit en France et du coup, il n'y ait pas vraiment de traces de...
Alors, en France, non. Mais à Bordeaux, oui. En fait, à Bordeaux, on fait la préhistoire, la protohistoire, l'Antiquité, donc grecque et romaine, le Moyen-Âge, donc haut et bas Moyen-Âge, et les époques modernes et contemporaines. Mais on n'étudie pas d'autres périodes en particulier. Par exemple, tout ce qui est pays asiatiques, non. Pays orientaux, très peu. Afrique du Nord, un tout petit peu. Ça dépend avec les spécialistes. Mais souvent, après, il faut monter soit à Paris, soit dans d'autres plus grosses villes. Ouais.
Et après, tu as des spécialités. Du coup, ça dépend en fait des profs qu'on a et des spécialistes qu'on a. Après, on a des ouvertures avec des conférences, etc. Mais ça ne remplace pas les cours. Et après, en fonction aussi... du coup, il y a une part mais sur le pôle de Bordeaux. Donc qui est centré sur la thanatologie, l'archéozoologie, la préhistoire, beaucoup. Et après, tu as d'autres spécialités du côté de Marseille. Par exemple, tu peux spécialiser en subaquatique. Mais sinon, c'est vrai que pour les périodes, tout ce qui est égypto, monde orientaux, amérindien, etc., c'est plutôt vers Paris qu'il faut aller.
Ouais, ici, c'est vraiment... j'ai envie de dire, la spécialité de Bordeaux, c'est la proto-histoire. Vraiment, et l'antiquité, évidemment. Mais la proto-histoire et l'antiquité, c'est vrai que oui, c'est un peu le truc phare de Bordeaux, quoi.
Et en parlant de spécialisation, vous souhaitez faire quoi après ? Est-ce que tout le monde veut devenir archéologue après ses études ou pas forcément ? Est-ce qu'il y a d'autres débouchés possibles ?
Alors déjà, avec la licence qu'on a, on peut donc ou rester en archéologie, aller en histoire de l'art, en histoire, en patrimoine. Et après, donc, nous, on a les masters d'archéologie à Bordeaux-Montaigne, donc qui sont centrés sur la recherche ou la professionnalisation, donc pour devenir chercheur ou carrément, donc dans le master pro, on peut devenir, on va dire, vraiment archéologue, donc à fouiller constamment sur le terrain. Et après, en fait, tu as différentes spécialités dans l'archéologie, je vais y arriver. Donc, tu peux, comme je disais, t'orienter vers les métaux, la céramologie, tout ce qui est le travail du verre, etc. Et donc, puisque tu nous posais la question, moi, je veux m'orienter en thanatologie après. Donc, tout ce qui est l'étude des rites funéraires et des restes humains. Et donc, ça, ce sera plutôt sur le campus de Bordeaux où tu peux aussi te spécialiser donc, en archéozoologie, tout ce qui est lithique, préhistoire, l'anthropologie en général. Voilà.
T'as dit l'archéozo, oui, c'est bon. Oui. Ouais, voilà, les restes animaux, ouais. Et c'est ça qui est, oui, c'est la force aussi d'ici, c'est parce qu'on a pas mal de masters qui sont assez généraux quand même. Donc même en sortant avec un master archéologie, avec une toute petite spécialité, on peut quand même aller dans plein de droits différents. Moi, je sais pas du tout, parce qu'en fait, je pars du principe qu'on peut pas savoir quelle période on aime vraiment si on n'a pas tout fouillé. Et vu que j'ai fouillé que du néolithique moyen et du gallo-romain, je sais pas, j'ai vraiment fouillé du médiéval et tout ça, donc j'ai quand même une tendance pour les Grecs, j'ai toujours aimé ça. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, pourquoi on est devenu, pourquoi on était attiré par l'archéologie. Moi, c'est les divinités grecques et tout ça. Je pense qu'on a un peu tous comme ça au début, on peut-être me spécialiser là-dedans, mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde. L'antique, ça intéresse beaucoup, donc faut se faire une place, faut avoir un sujet quand même particulier, intéressant. Souvent, c'est moins facile, mais surtout ce que veut faire Aurélie, c'est très très précis aussi, et c'est cool aussi, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de place.
C'est quoi les limites temporelles en archéologie, d'où on commence et d'où on termine?
Du coup, on va s'intéresser à tout ce qui touche à l'homme en fait. Donc à partir du moment où il y a des hommes, ou en tout cas des hominines, donc on peut s'intéresser, on l'a vu en cours l'autre jour, les premiers galets taillés, etc. Et après, là, on commence à avoir, dans le moderne, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et même un peu plus après. Mais là, on n'a pas forcément suffisamment de recul pour pouvoir faire de l'archéo. Mais donc, c'est à partir du moment où il y a des hommes, on s'intéresse à tout ce qu'ils ont produit pour comprendre comment ils vivaient.
C'est ça, voilà. À peu près une date après, je sais pas, j'ai pas trop envie de me balancer là-dedans, mais je sais pas, t'as pas une date, toi, Aurélie, à me glisser deux secondes, ouais, non. Mais enfin, bref, voilà, tant qu'il y a un homme à peu près qui est là, on commence par là, ouais.
Mathéo, tu nous parlais de l'Antiquité avec plein d'étoiles dans les yeux. Est-ce que s'intéresser à des périodes antiques ou en tout cas très anciennes, ça vous donne un autre regard que, par exemple, les a priori ou les préjugés qu'on peut avoir en se disant que aujourd'hui on vit dans une époque moderne et que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, et on a l'impression des fois dans le discours qui est véhiculé qu'à l'époque c'était la préhistoire et qu'il n'y avait rien. Ouais, est-ce que ça change un peu votre vision des choses ? Est-ce que justement vous découvrez qu'il y avait plein de choses et qu'il y avait des façons de vivre complètement passionnantes et tout aussi légitimes qu'aujourd'hui ?
Exactement, oui. Ça n'a rien à voir avec la vision qu'on peut avoir un peu, comment dire, qui a tendance à dire oui, avant c'était les tribus, les trucs, les machins, ils étaient là, ils étaient avec leur peau, et ils faisaient rien. Non, en fin de compte, à toute période, c'est des groupes qui sont très intelligents, qui ont comment dire, une... planification au niveau de l'urbanisme, qui ont des rites très particuliers dès le début, qui savent ce qu'ils font. Et puis en fait, ils s'adaptent énormément à leur environnement. Nous, tout notre environnement est anthropisé, donc c'est-à-dire qu'on a tout construit. Il faut s'imaginer que par exemple, à la préhistoire, c'est des plaines partout. Donc ils arrivent vraiment à choisir des lieux. Par exemple, à la préhistoire, on arrive à savoir quand est-ce qu'un certain groupe d'animaux passe à un certain endroit, donc on sait que la saison prochaine il faudra y retourner pour en retrouver. On a des sites de boucherie qui sont juste à côté, donc on transporte le corps, on le traite, on a des sites après de tannage, on a des sites pour faire des silex juste à côté. Donc on redécouvre l'humanité vraiment.
Et je trouve aussi que ça apporte, dans ce que tu disais, un peu de recul, parce que sur beaucoup de choses on se voit que nous on n'a rien inventé. Il y a des évolutions forcément technologiques, etc. Mais on n'a pas inventé tout ce qu'on pense avoir inventé. Et du coup, ça apporte aussi ce recul de comprendre qu'en fait, les gens qui vivaient avant, c'est les mêmes personnes que nous aujourd'hui, juste qu'on n'a pas le même environnement. Franchement, pour ça, c'est incroyable.
Et les pyramides, alors ? Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, on entend un peu tout et n'importe quoi parfois sur la construction des pyramides. C'est un peu le truc qui revient souvent quand on parle d'archéologie.
La révélation des pyramides, ouais. Le fameux...
Sur YouTube, ouais. Une heure, ouais, pas mal, ouais.
Aïe, aïe, aïe.
Mais justement, vous qui faites de l'archéologie, qui vous intéressez au passé, notamment aux fouilles et peut-être aussi aux constructions, est-ce que ça... tu disais qu'on n'avait rien inventé aujourd'hui. Est-ce que ça vous permet de voir aussi qu'à l'époque, il y avait des gens très très compétents pour faire des choses extraordinaires, même peut-être plus extraordinaires qu'aujourd'hui, et peut-être qu'il y a un savoir aussi qui s'est perdu.
Ouais, justement ce que j'allais dire, qu'en fait il y a certaines choses maintenant, on sait qu'on ne serait pas capable de les refaire nous, parce qu'il nous manque des éléments sur comment c'est fabriqué ou comment ils le font. Et dans un sens on a évolué sur certains points, il y a des trucs aujourd'hui qu'on ne serait pas capable de refaire, et donc des fois dans la compréhension de la fabrication des objets ou de leur utilisation, c'est un peu compliqué. Mais il y a des savoir-faire qui se sont perdus et que maintenant on a du mal à retracer.
Ouais, en archéologie, il y a ce qui s'appelle des biais cognitifs. En fait, on pense que parce qu'on n'a pas des preuves matérielles, ça ne vient pas forcément des hommes. Par exemple, pour parler des pyramides, truc complètement fou, il y a justement cette espèce de documentaire sur une heure qui s'appelle « La révélation des pyramides ». Surtout, n'allez pas le voir à part si vous voulez taper une grosse barre, parce que vraiment, à un moment... Le présentateur dit oui, vous rencontrez, les Égyptiens, ils avaient une pierre taillée et puis un caillou et puis ils tapaient dessus pour faire les blocs. Non, pas du tout, ils avaient beaucoup d'autres choses, mais comme le dit Aurélie, il y a plein de traces en fait qu'on n'a pas du tout. Parce que soit c'est fait en matériaux par les sables, donc en bois par exemple, le bois, à moins qu'il soit dans de l'eau, il ne se conserve pas. Si c'était écrit sur quelque chose en papier, par exemple le papyrus, ça dépend, ça ne se conserve pas forcément. Donc non, et puis de toute façon, il y avait... toute une documentation qu'on n'a pas, oui, et nous on a perdu des choses en évoluant et inversement aussi, c'est le même principe, ouais.
Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais sur le bois, c'est vrai que comme le bois laisse peu de traces, en fait, on a souvent l'impression que c'est des choses très primitives qui sont faites en bois, alors qu'on peut avoir des civilisations qui utilisent absolument que le bois et qui font des constructions incroyables, mais comme aujourd'hui on n'a plus trop de traces, c'est plus complexe à percevoir, et donc ça laisse cette image de il y avait rien, le bois c'est nul, il y a que l'architecture en pierre. C'est vrai que l'architecture en pierre est souvent mise en avant, alors que le bois peut être aussi bien utilisé.
Oui, c'est ça. Par exemple, on met souvent en avant les temples grecs, les temples romains, ils sont beaux avec leurs colonnes et tout ça. C'est vrai que c'est super joli, hein. Mais il y a des temples avant qui sont construits, par exemple les temples étrusques, leur couverture est en bois. Donc c'est une technique ouf, parce que c'est de la vraie menuiserie, c'est un truc qu'on fait aujourd'hui, qui a été fait avant, et d'ailleurs c'est les mêmes, la panoplie par exemple du menuisier d'avant, c'est la même qu'aujourd'hui, pas évidemment celui qui utilise des outils modernes, mais si c'est, je sais pas moi, une personne d'il y a à peu près 50 ans qui utilise des outils complètement qui sont aujourd'hui pas trop utilisés, c'est le même principe que par exemple en proto-histoire, le ciseau à bois, tout quoi. Pareil. Donc c'est ça qui est génial aussi de redécouvrir en fait tout ça.
Et les outils de l'archéologue, c'est quoi à part la truelle, évidemment ?
Oh là, il y en a pas mal. Après, ça dépend ce qu'on aime utiliser. Je sais pas, par exemple, il y a une pelle pour enlever les gravats, il y a les seaux, donc on met les gravats de la pelle au seau. Il y a la pioche, évidemment, super, super utile pour justement mettre à niveau de la stratigraphie. C'est l'outil préféré d'Aurélie, d'ailleurs. Donc évidemment, la truelle, mais après, on a des modèles plus petits, qui c'est par exemple une spatule. Donc c'est le même principe qu'une truelle, juste c'est vraiment très très fin. C'est pour retirer des toutes petites couches de sédiments. Il y a la rasette, donc c'est comme une sorte de râteau, mais plein. Et en fait, ça va être utilisé pour niveler toute une couche. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le triangle, c'est comme une truelle, mais juste c'est en forme de triangle, en effet. Et du coup, ça permet aussi de mettre à niveau une couche, mais juste avec une main. Donc, c'est super pratique. Il y a tellement de choses.
Bah en fait, on va du petit pinceau à la pelle mécanique.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Donc on retrace tout. Et ce qui est juste important, c'est d'arriver à choisir le bon outil qui va en fonction de ce qu'on veut faire. Mais après, on utilise vraiment tout. Même des fois, moi, je sais que j'ai déjà utilisé une petite cuillère pour fouiller. Donc, oui, voilà, on peut utiliser ça. Absolument tout.
Moi, en néolithique moyen, par exemple, j'ai fouillé un tumulus, donc le tumulus de Tusson en Charente. Et le but des 2 semaines de fouille, c'était juste de le découvrir. Et en fait, il était plein de feuilles, plein de terre. Et en fait, on a littéralement utilisé un pinceau, même plusieurs pinceaux. Donc, le pinceau qu'on peut utiliser pour, je sais pas moi, peindre n'importe quoi, juste pour enlever de la poussière sur des cailloux.
Mais c'est vrai qu'on a souvent l'image de la fouille parfaite, où on est à la truelle, on découvre des trucs incroyables et tout. Parfois, on peut passer des semaines sans rien trouver et juste trouver un petit truc au dernier moment. Et il y a aussi tout le côté... décaper au début, donc enlever tout à la pelle mécanique. Là, on fait souvent du gros œuvre, on nettoie tout. En fait, on trouve rien, juste on essaye de nettoyer. Il y a quand il pleut, écoper les fonds des trous parce qu'il y a de l'eau et que du coup, on peut pas les garder. Penser à rebâcher. Il y a tout. En fait, il y a tout un travail qu'on fait pas passer souvent. Et donc, c'est vrai qu'on passe par toutes les étapes. On est vraiment multifonction parce qu'il faut savoir tout faire, en fait, pas juste fouiller.
C'est ça, et surtout, il faut être très propre en archéologie. On a tendance à dire, oui, les archéologues, ils sont dégueux et tout. Non, non, non. Il faut être très propre et il faut avoir son site hyper propre parce qu'en fait, ça permet vraiment de révéler toute l'intensité des vestiges, vraiment.
Et des fois, c'est un peu désespérant quand on passe une journée ou une demi-journée à rendre absolument tout propre et que le lendemain, on prend la pioche et on défonce tout pour passer au niveau d'après.
C'est ça, ou alors que genre la terre est hyper argileuse et qu'il pleut un bon coup et que tout est ruiné, il y a des bosses partout, ça rend la chose bien, bien, bien sympa après à reprendre.
Donc un archéologue range toujours bien sa chambre, c'est nickel chez lui, hein, c'est à l'image de son site de fouille finalement.
Si seulement.
Est-ce que vous avez des musées à recommander à nos auditeurs qui s'intéressent à l'archéologie ?
Bah, le musée d'Aquitaine déjà, qui est un super musée, il y a toutes les périodes proposées, donc c'est super, de la préhistoire jusqu'à l'époque moderne contemporaine. D'ailleurs, c'est tout le rez-de-chaussée, c'est de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Et puis après, l'étage, c'est toute l'époque colonialiste de Bordeaux. C'est super intéressant de savoir aussi ce qui a pu se passer. C'est pas une histoire jolie, en effet, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui a pu se passer, oui. Après, moi, je sais pas, l'année dernière, on a été au musée des Aisy, donc c'est le musée de la préhistoire... un des musées les plus importants en préhistoire en France.
Musée national,
voilà, même, merci Aurélie. Et vraiment super intéressant parce qu'il y a pas mal de découvertes qui sont exposées. Et pour comprendre un peu plus comment est la préhistoire, bon, c'est pas tout à fait à côté aux Aisy, c'est quoi ? C'est une petite heure, peut-être.
Oui, ah, mais on peut voyager aussi pour
on
aller
peut voyager,
voir des
exactement.
Musées.
Exactement, donc non, c'est super. Ouais.
Bah après, il y a tous les musées en France, sur les grands sites, il y aura des musées archéologiques.
Oui,
et
c'est
le plus gros musée d'archéo, c'est le musée national à Saint-Germain-en-Laye.
Saint-Germain-en-Laye, ouais, voilà.
Voilà. Mais après, il faut aussi comprendre que dans les musées, les objets qu'on voit, ce n'est pas ceux qu'on trouve nous. Hein, ils sont souvent bien restaurés, recollés, etc. Et après, souvent, les chantiers sont ouverts l'été aussi, donc on peut visiter le chantier, voir directement ce qui est découvert. Mais. Ouais, des musées archéologiques, y en a un peu partout, souvent autour de grands sites ou dans les grandes villes.
Dans les grandes villes, ouais, par exemple. Bah, quand on a fouillé dans la Sarthe, il y en avait un au Mans, très sympathique. Moi, par exemple, j'habite à Angoulême, il y en a un à Angoulême, qui est super sympa aussi. Il y a même avant la préhistoire, il me semble, il y a avec les dinosaures et tout ça, parce qu'il y a Anjac, très gros site avec des dinosaures, donc c'est vachement intéressant aussi si on s'intéresse à ces périodes, que l'on n'étudie pas, on va le rappeler je pense à chaque rubrique, on n'étudie pas les dinosaures, pas du tout.
Et du coup je rebondis Léo par rapport à ta question, est-ce que outre les musées vous avez aussi des sites archéologiques que vous aimez particulièrement ou que peut-être vous aimerez un jour, auxquels vous aimerez un jour participer ou juste visiter, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Moi, cet été, j'ai fouillé à Alésia, donc oppidum mythique de Vercingétorix. Et je suis tombé vraiment amoureux de ce site parce que la fouille était vraiment super. C'était ce 4 semaines, j'ai pu rester que 2 semaines à cause de la rentrée. Mais moi, j'aimerais beaucoup y retourner, beaucoup encore fouiller. Le cadre est ouf parce qu'en fait, évidemment, c'est sur une hauteur. Et en fait, on voit tout le paysage autour, donc toutes les montagnes. C'est super sympa. Et puis, c'est très particulier d'arriver à un moment et de se dire, là, il y a eu un moment de notre histoire assez, clé, et on est dessus, en fait. On sent pas forcément ce qui a pu se passer, mais on est là, il y a quand même une ambiance particulière, quoi. Après, je sais pas, toi, Aurélie, je pense que j'ai une petite idée, mais...
Moi, j'adore le Moyen-Âge, et je fouille sur un site médiéval, dans la Somme, à côté d'Amiens, depuis l'année dernière, et j'adore ce site, voilà... Je suis fan de ce site. Donc, c'est une mode castrale en plus. C'est un gros chantier où on trouve beaucoup de trucs. Donc, après, je pense que dans les chantiers, il y a, comme tu dis, les chantiers mythiques qui peuvent attirer. Mais souvent, ça dépend aussi de nos expériences personnelles. Enfin, moi, je sais que c'est mon premier chantier. L'ambiance est incroyable et les gens sont incroyables. Le site est incroyable. Donc, ça dépend aussi, je pense, de nos perceptions vis-à-vis de nos fouilles. Donc, on aura envie de retourner dans des endroits ou pas et ça nous marquera plus.
Ça, c'est vraiment l'affect selon les fouilles qu'on peut avoir. Donc, c'est à prendre en compte aussi, mais parfois il faut se dire que on aime beaucoup un site, mais est-ce qu'il nous apporte vraiment quelque chose, ou alors est-ce qu'on y va que pour l'ambiance entre guillemets? C'est ça aussi qui est pas facile à cerner parfois.
Alors je voulais revenir sur le site d'Alésia, Mathéo. Mm-hmm. C'est pas un peu nébuleux ce qui est autour de ça, parce que il y a plein de gens qui disent qu'Alésia c'est à plein d'endroits différents.
Oui, exactement. Oui, justement j'ai envoyé un espèce de d'écrit qu'un monsieur a fait sur le fait qu'Alésia n'était pas Alésia. Il y en a plein comme ça, vraiment. C'est il y a plein de théories farfelues. Et il m'a justement dit qu'il l'avait jamais vu celui-ci et qu'il était très content parce que ça apportait justement toute cette contradiction sur des historiens, sur des archéologues entre guillemets qui pensent savoir tout de Alésia. En fait, ils se basent surtout sur les preuves historiques et sur les traductions qu'on peut faire de la guerre des Gaules, donc de César. Et malheureusement, aujourd'hui, par rapport au site qu'on a, on sait que c'est Alésia. Donc c'est... je pense qu'on pourra mettre toutes les problématiques là-dessus.
D'après la guerre des Gaules de César.
Alors...
En s'appuyant là-dessus?
Comment dire aujourd'hui, on ne s'appuie plus vraiment là-dessus, parce que c'est un texte... Encore une fois, les textes historiques en archéologie... Ça peut aider, mais étonnamment, si on peut s'en débarrasser plus ou moins, c'est bien aussi, parce qu'en fait, on veut créer notre propre référence et pas forcément essayer de copier sur les autres et de récupérer, de dire ah oui, alors là, c'est un gros truc, un gros problème en archéologie, c'est de se dire ah oui, alors dans les textes, on dit qu'il y a cette ville à cet endroit, on va y aller, il y a forcément ça. Parfois non, parce qu'en fait ça se trouve le texte est postérieur de plusieurs siècles, donc soit la ville elle était là juste parce que, enfin soit la ville n'a pas du tout été là, soit alors c'était imaginé, donc ouais, mais Alésia était Alésia, il n'y a pas de théorie du complot là-dessus aussi, parce que vraiment le responsable d'opération, donc Mathieu Ribollet, nous a dit qu'il y avait aussi des théories là-dessus. C'est comme à Carnac, souvent il y a des gens qui sont là et qui disent oui, non mais ce sont des vaisseaux aliens qui nous attendent, qui prennent des photos, c'est des originaux, j'ai envie de dire.
Oui, on m'a déjà sorti qu'il y avait des hélicoptères sur les hiéroglyphes à l'intérieur des tombeaux dans les pyramides. C'était un auteur qui dédicassait un livre de science-fiction au Leclerc, espace multimédia Leclerc Royan. Bon, il n'y avait personne. Moi, je n'avais rien demandé. Je passais par là et il me fait oui. Donc, il m'explique son bouquin et il me dit que ça se passe dans l'Égypte et tout. Et qu'en fait, il y a des aliens, des hélicoptères, mais que c'est scientifiquement prouvé. Ça a été montré sur des hiéroglyphes. Ça, on est d'accord. Évidemment, c'est du fantasme, mais comment on fait pour casser tous ces arguments quand on est archéologue? Parce qu'il y a énormément de théories du complot dans ce domaine. Ouais.
On étudie justement... là, par exemple, dans le fameux documentaire les pyramides, là, sur YouTube, justement, à un moment, ils décrivent cette espèce de hiéroglyphe, en fait. Mais c'est tout simplement, quand une personne étudie vraiment ça normalement, en fait, c'est parce qu'il y a deux signatures de pharaon qui sont apposées l'une contre l'autre. Et du coup, il y a des caractères qui se confondent. Et à force de l'érosion, ce qui paraît logique, on pense qu'il y a un hélicoptère. Pas du tout, évidemment. Et je ne sais pas, pour combattre les théories du complot,
faire avancer la science.
Le problème, c'est que souvent, les théories farfelues prennent toujours plus le dessus que les preuves scientifiques amener. Et donc après, pour casser les préjugés, c'est un peu complexe. Mais on va dire que les personnes à peu près sensés, qui ont foi en la science et pas en théorie farfelue, vont se baser forcément sur ce qu'on fait. Mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs tenaces, bien plus que le côté scientifique.
C'est ça. Donc par exemple, c'est super intéressant d'aller voir des archéologues fouiller pour justement démonter ces théories et de comprendre vraiment ce qu'ils fouillent. Nous, par exemple, on a fouillé ensemble en Sarthe. Et justement, notre responsable d'opération faisait des journées portes ouvertes. C'était vachement intéressant de voir comment ils présentaient ce site au grand public. Donc pas à nous comme archéologues en nous proposant une lecture très très particulière, et là justement il n'y avait pas de doute sur ce qu'ils voulaient nous faire comprendre en fait.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu en quoi consiste le métier d'archéologue, parce qu'on a compris qu'il y avait les fouilles, mais est-ce que votre métier peut consister aussi à trouver des nouveaux sites ou à retourner sur un site qui a peut-être été laissé de côté? Et est-ce que votre travail aussi s'arrête à la fouille une fois que vous avez découvert quelque chose, ou est-ce que vous êtes dans la conservation, la restauration, est-ce que dans la valorisation aussi, est-ce que vous pouvez, vous êtes obligé de faire des écrits pour présenter vos trouvailles au monde scientifique, archéologique?
Alors déjà, la partie restauration et valorisation, en fait, c'est ce qui va arriver en dernier. Donc c'est-à-dire qu'au départ, on a tout le travail qui peut être de prospection, donc de recherche de sites. Donc en fait, en fonction des interrogations, on va ou chercher de nouveaux sites, ou refouiller sur d'autres sites, ou même juste travailler sur le matériel qu'on a déjà sorti. Donc en fait, la fouille, c'est la partie, on va dire, la plus visible, celle qui fait rêver tout le monde. Alors qu'en fait, le plus gros travail, ça réside dans tout ce qui se passe après la fouille. Donc laver le mobilier, nettoyer le mobilier, oui, l'enregistrer, l'analyser, tout ce qu'on a trouvé sur le site, donc que ce soit des faits, des fosses, des objets, etc. Faire les relations stratigraphiques, donc établir une chronologie ou absolue, donc on a des dates précises ou relatives, donc en fonction de ce qu'on trouve. Et après, ça va être du coup d'analyser tout ça. Donc tous les ans, après la fouille, on doit rendre un rapport donc, qui résulte de tout ce qu'on a trouvé cette année, des interprétations qu'on peut en faire, si on faut revoir des interprétations qu'on a déjà pu avoir. Et seulement après, on peut faire le travail de restauration, de valorisation, etc.
C'est ça. Donc l'archéologue, il est à la fois, il est à la fois observateur. Il a vraiment un rôle très ambivalent, dans le sens où à la fois il fouille et à la fois il essaie de comprendre ce qu'il fouille par rapport à soit ce qu'il a déjà fouillé, soit la documentation qu'il a déjà avant. Donc c'est un travail très très, comment dire, très ambivalent, quoi.
Est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants et les étudiantes qui souhaitent se lancer dans des études d'archéologie ?
Lancez-vous. Qu'attendez-vous enfin ? Non, mais oui, il n'y a pas de peur à avoir. Généralement, on voit. Enfin, faut être très curieux parce qu'on touche vraiment à tout. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers, par exemple, les professeurs, d'aller vers de la documentation. On lit beaucoup. Surtout en français, mais aussi en anglais, dans d'autres langues. Si par exemple, je sais pas, moi, il y a un étudiant qui est natif espagnol, l'archéologie en Espagne, c'est, il y a beaucoup 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 de choses. La seule chose à voir, c'est être curieux. Je pense que c'est vraiment le conseil ultime. C'est intéressez-vous à tout, allez voir des expositions, allez parler à des professionnels. Faut pas avoir peur de poser des questions bêtes. C'est justement ça qui fait avancer la science.
Ouais, et puis il faut se dire que quand on commence des études d'archéologie, bon, à part quelques personnes qui ont déjà pu fouiller parce que pour X raisons, en fait on part tous de zéro. On part juste avec les connaissances qu'on a pu acquérir en allant à des conférences, en lisant des articles, etc. Mais que quand on se lance dedans, à la limite on a la passion, mais on part tous de zéro. Et donc faut y aller parce que c'est un métier passion, comme je viens de dire. Et après, on arrive tous à niveau, et je pense qu'on a tous démarré en ayant des connaissances très très minimes en archéologie, et maintenant on se débrouille tous à peu près bien et on comprend ce qu'on fait.
C'est ça, et souvent les fouilles révèlent le côté archéologique d'une personne. Souvent c'est ça, on peut adorer faire les cours, et quand on arrive sur le terrain, on déchante en fait, parce qu'on pense que l'archéologie c'est censé être dans une façon particulière et pas une autre. Et pas particulièrement, en fait, il faut vraiment... C'est quelque chose qui se sent, en fait, je pense. Mais ouais, le principal, oui, comme l'a dit Aurélie, on part tous de zéro. Donc c'est ça qui est bien aussi, parce qu'il y a beaucoup de... faut beaucoup s'entraider, en fait, aussi. Faut beaucoup se dire, ah oui, alors toi, t'as lu cet article-là, ah, il m'intéresse, vas-y, donne-le-moi. Moi, j'ai lu un article, c'est ça, je te le donne. Et on voit après comment ça fonctionne en fait.
Bah, c'est vrai que la notion de travail en équipe, c'est super important parce qu'en chantier, on va travailler en équipe. En fait, on va tout le temps travailler en équipe.
Tout le temps,
oui. Donc, il faut partir sur le principe qu'on est là pour s'entraider et travailler ensemble.
C'est ça. Et en, bah, par exemple, aujourd'hui, en cours, la plupart des travaux qu'on fait, c'est en groupe. Alors, on peut ne pas aimer ça, mais on travaille tout le temps en groupe parce que c'est ça aussi qui est bien, c'est de vraiment partager ce qu'on fait, de comprendre comment les réflexions des autres fonctionnent et peuvent fonctionner sur la nôtre, en fait. Donc ça qui est intéressant, il ne faut pas avoir peur de travailler en équipe, oui, ça c'est sûr.
Aurélie et Mathéo, merci beaucoup pour ce Truel FM un peu spécial. Hein, voilà, un question-réponse, un foire aux questions, comme on dit. On vous retrouve tous les lundis dans Café Campus pour Truel FM. On le redit, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Campus Bordeaux, audiostar.rta.rta.rta.rta.